chiste, là. Bon, alors, bon, une image qui va nous aider à comprendre cela, c'est l'image de l'eau. Tu sais, quand on dit une eau, elle est pure, hein? L'eau est pure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est transparente, hein? On peut voir à travers. Alors, pour parler un peu du cœur pur, ce serait l'image que je dirais. Et donc, quand on... Puis, c'est vrai que quelqu'un qui est... Vous savez, l'image du cœur pur, là, c'est quelqu'un qui... C'est une aube transparente. Il y a l'idée là-dedans de droiture, d'honnêteté. Hein? C'est pas comme ci, comme ça. Là. Non, non. C'est droit. Ainsi, au fond, nos relations humaines, lorsqu'elles sont empreintes de cette pureté, de cette droiture, de l'authenticité, de la vérité, de la transparence, quand les relations humaines sont vécues comme ça, eh bien, c'est un chemin de bonheur. Mais lorsqu'on ne sait jamais avec quelqu'un si c'est comme ci, c'est comme ça, puis là, puis c'est tortueux, on n'est pas bien là-dedans. Hein? Mais dans la mesure où c'est droit, limpide, authentique, c'est vrai, transparent, ah ben, ça met de la joie dans nos relations sociales. Vous voyez, donc quand on parle de cœur pur, il faut s'enligner dans cette perspective-là. Vous avez déjà dans l'Ancien Testament des paroles qui mettent en lien justement cette pureté et le fait de voir Dieu. Parce que la Béatitude a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Et vous avez un psaume, le psaume 24. « Qui peut gravir la montagne du Seigneur? Qui peut se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes. » Donc, le cœur pur, si on résume, ce serait une personne, hein, c'est quelqu'un qui se tient devant Dieu en toute honnêteté et en toute intégrité. Quelqu'un qui se tient devant Dieu et devant ses frères et sœurs, mais avec droiture, avec honnêteté, avec intégrité. Et vous voyez, le cœur pur par excellence, c'est qui encore? C'est Jésus. Jésus est le cœur pur. Pourquoi? Il est transparence du Père. Il est transparence du Père. Vous avez une parole dans l'Évangile qui dit ça clairement. Qui me voit? Voit le Père. Exactement. Jésus est le cœur pur. Hein, c'est un peu comme vous disiez, cette eau, puis on regarde à travers le verre, puis on voit de l'autre côté. On regarde Jésus, et à travers Jésus, qui on voit? On voit le Père. Jésus est le cœur pur. Et Jésus est ce cœur pur aussi parce qu'il n'y a pas de péché en lui. Hein? Qui de vous me convaincra de péché? Dit Jésus. Hein? Qui de vous va me convaincre de péché? On dit de Jésus qu'il passait en faisant le bien. Et qu'est-ce que le larron en croix va dire au sujet de Jésus? Il va dire à l'autre larron, nous méritons ce que nous avons fait. Hein? On a le résultat de ce qu'on a fait. Mais lui n'a rien fait de mal. Jésus, voyez, l'homme honnête, l'homme intègre, hein, qui se tient ainsi devant le Père en toute transparence et aussi devant nous. En suivant la pureté, voyez, dans le temps de Jésus, on la voyait un peu d'une façon rituelle. Hier, on a fait le lavement des pieds. Hein. La réaction de Pierre, quand on lit le lavement des pieds, Pierre, il a tendance à le voir d'une façon un peu rituelle. Pas seulement les pieds, Seigneur, mais la tête, les mains, tout ça. Jésus dit, non. C'est lui qui a pris un bain, est pur tout entier. Il fait référence ici, au fond, au baptême. Mais, voyez, au temps de Jésus, il y avait beaucoup de rites, de pureté rituelle. On se lave les mains, puis tout cela. On lave les coupes, on fait attention. Mais Jésus, c'est pas cette pureté extérieure qu'il veut, c'est l'intérieur. Un cœur pur. Hein? Purifiez vos cœurs, disait déjà le prophète Ézéchiel. Et donc le cœur, purifiez votre cœur, enlevez de votre cœur tout ce qu'il peut y avoir de péché. Hein? Le cœur, c'est le centre au fond de la personne humaine. Nous autres, le cœur, souvent dans notre mentalité aujourd'hui, le cœur fait référence à la sensibilité, à l'affection. Mais dans la Bible, le cœur,
c'est le siège de la volonté, le siège de la liberté. Vous voyez, un peu comme hier, on a vu les entrailles. Je vous ai parlé des entrailles. Les entrailles, dans le langage biblique, c'est le siège de la miséricorde. Et je trouve ça beau, hier, je vous ai présenté la reproduction de Rembrandt, où on voit le père qui s'arrange pour que la tête de son fils cadet ait la tête dans le ventre. Mais c'est très beau, parce que le ventre, dans la pensée biblique, c'est le siège de la miséricorde. C'est comme si le Père disait « Entre dans ma miséricorde ». Même il y a un psaume qui était un peu étonnant dans la Bible. Un psaume il dit « Dans sa colère, Dieu a-t-il fermé ses entrailles ?» Qu'est-ce que ça veut dire, ça? « Dans sa colère, Dieu a-t-il fermé ses entrailles ?» Est-ce que Dieu a des entrailles? Ben non, c'est sûr qu'il n'y a pas d'entrailles, comme il n'y a pas d'oreilles, puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'on veut exprimer par là? On pourrait traduire, est-ce que ça se peut que dans sa colère, Dieu ne soit plus miséricordieux? Mais dans la Bible, on dit ça d'une façon très concrète, très imagée, en parlant des entrailles. Et ainsi, le cœur, c'est le centre. C'est le lieu où l'être humain prend des décisions. C'est le lieu de la volonté, c'est le lieu de la liberté. Un petit peu comme on le dit au sujet d'un arbre. Quand on dit « le cœur de l'arbre est atteint », eh bien, l'arbre va mourir. Vous voyez, le cœur, c'est le centre. Donc, quand on nous invite à avoir un cœur pur, hop, c'est d'aller en profondeur, dans nos motivations. Que nos motivations soient honnêtes, intègres, transparentes par rapport à notre foi. Ah, donc, le cœur pur, vous voyez, ça fait référence, au fond, à l'authenticité. Mais une authenticité qui n'est pas seulement de la sincérité, mais qui est en même temps recherche de la vérité. Parce que, vous voyez, on peut être sincère, mais ne pas être dans la vérité. Alors, c'est important, parce que quelqu'un peut être sincère, puis être dans l'erreur. Puis on le sait, des fois, dans notre vie, on a pu affirmer des choses d'une façon sincère, puis quelques temps après, se rendre compte qu'on s'est trompé. Parce qu'il y a une différence entre la sincérité et la vérité, voyez? Donc, le cœur pur, oui, c'est quelqu'un qui est authentique, qui est sincère, mais qui est aussi dans la recherche de la vérité, de la vérité. Et ce, dans ses rapports avec Dieu et dans les rapports avec les autres. Au fond, le cœur pur, c'est celui qui a une correspondance entre le dedans et le dehors. Quel est l'opposé du cœur pur dans les évangiles? Ce sont les scribes et les pharisiens. Jésus va les traiter de quoi? D'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils présentent quelque chose de très beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, comme il dit, c'est plein de rapines. Voyez? Ils affichent une belle motivation, mais il y a une belle apparence, mais au fond, la motivation, elle est faussée. Exemple, Jésus va dire dans l'Évangile de Matthieu, ils se tiennent au coin des carrefours pour prier, pour montrer aux hommes que ce sont des personnes religieuses. Mais ils le font pour être remarqués des hommes et non pas, tout simplement pour être remarqués du Père du ciel. D'où Jésus lui dira, quand tu pries, retire-toi dans le secret. Ton Père va dans le secret. Et Jésus nous met en garde de faire des choses pour être remarqués des hommes au lieu de rechercher la gloire du Père. Et là, il va être très ferme face aux scribes et aux pharisiens, parce qu'ils font des choses pour être remarqués des gens au lieu de faire des choses en fonction du Père du ciel. Le Père Cantalamessa, quand il parle des béatitudes, ça c'est le prédicateur de la maison pontificale, le Père Cantalamessa dit, c'est quelle béatitude vous pensez qui est la plus importante aujourd'hui? Et là, il dit, vous pouvez penser que peut-être c'est la béatitude sur la justice. Vous pouvez penser que c'est la béatitude sur la miséricorde. Le Père, quand il aimait ça, lui il dit, moi, là, je pense qu'une des béatitudes très, très importantes actuellement dans notre société, c'est heureux les cœurs purs. Pourquoi? Parce qu'il dit, actuellement, dans nos sociétés, on donne une grande, grande importance à l'image. On donne une grande importance au personnage. Puis, on perd de vue la personne elle-même, le cœur, l'intérieur. On peut avoir des motivations à l'extérieur qui paraissent bien, mais ce ne sont pas les motivations intérieures profondes. Et le Père Cantalamessa dit, il me semble que s'il y a une béatitude importante dans notre société actuellement, c'est bien cette béatitude-là. Parce que justement, on le sait, combien on donne de l'importance à l'apparence, au personnage, pour être remarqué de qui? Non pas de Dieu, pour être remarqué des humains. Et là, le Père en nous met en garde, le Père Cantalamessa. Il dit que c'est donc une béatitude qui est très importante, donner plus d'importance à la personne qu'au personnage. Voyez? Donc, heureux les cœurs purs. Et au fond, cette béatitude-là nous amène à quoi? À regarder les motivations qui nous habitent. Quelles sont les motivations qui m'habitent dans tel ou tel agir, dans telle générosité, dans telle action que je pose? C'est quoi qui m'habite? Le cœur pur, c'est celui qui sait voir à l'intérieur de lui-même s'il est ajusté à Dieu ou non, s'il cherche à être remarqué des humains ou s'il cherche au fond la gloire de Dieu. Parce que vous savez, il y a cette parole dans l'Écriture qui dit « En toutes nos œuvres ont des tâches à tes yeux, Seigneur. » Toutes nos œuvres ont des tâches à tes yeux, Seigneur. On peut faire de belles choses puis de bonnes choses, mais des fois, quand on y regarde de près, il y a une petite recherche de soi. Le cœur pur, c'est celui qui connaît ses motivations et dans ce qu'il fait, il ne recherche pas l'apparence, il ne recherche pas d'être remarqué des humains, mais il le fait d'une façon libre, dégagée. Des fois, on voit ça. Quelqu'un me disait un jour qu'il avait rendu un service, puis c'était beaucoup dévoué. Puis là, mon œil, il me dit même pas merci. Ben, la prochaine fois, il s'étouffera avec ça. Ah bon? Tu lui as rendu service pour qu'il te dise merci? Ben, non, mais quand même. Ah, voyez? C'était pas tout à fait gratuit. On attendait un merci, une reconnaissance. Voyez? Le cœur pur, à un moment donné, c'est celui qui connaît les motivations qui l'habitent et qui recherche, non pas d'être marqué des humains, mais qui recherche d'être sous le regard de Dieu. Alors, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors, on va chanter un petit « Jésus, je voudrais » peut-être, ou quelque chose comme ça. « Jésus, ma joie ». OK.
Vous savez, on a toujours ce travail à faire sur nous-mêmes pour être un cœur pur. Être toujours, essayer de connaître les motivations qui nous habitent. Et pour cela aussi, c'est important, le silence. Durant la retraite, on a parlé combien il y avait, même si ce n'est pas une retraite, comme on dirait, fermée, où on est dans un même lieu, on couche ici, puis tout cela. Non. Il y a quand même ce beau climat de silence. Il y a l'adoration qui nous permet de nous intérioriser, d'être dans le silence. Et le silence nous permet justement de mieux saisir ce qui se passe en nos vies, de mieux discerner l'action du Seigneur, de mieux connaître nos motivations. Martha Robin disait qu'il n'y a rien de grand qui se fait dans la vie d'un homme ou d'une femme sans le silence. Donc, dans le silence, se mettent à l'écoute. Ô ma bonne mère, disait-elle, apprenez-nous la grandeur du silence dans lequel on entend Dieu. Apprenez-nous la grandeur du silence dans lequel on entend Dieu. Et le silence nous permet de mieux connaître ce qu'il y a au-dedans de nous et donc d'entrer toujours plus avant dans cette béatitude du cœur pur. Mais si on est toujours à l'extérieur de soi, si on est toujours dans le bruit, dans l'activisme, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on risque de faire des choses pour l'apparence, pour la galerie, comme on dit, pour être remarqué. Mais le silence nous permet cette entrée en nous-mêmes, de mieux saisir ce qui se passe en nous-mêmes, de mieux s'ajuster dans notre vie chrétienne sous le regard aimant de Dieu, et ainsi d'entrer toujours plus avant dans cette béatitude, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. On va s'arrêter sur l'autre béatitude. Après, heureux les cœurs purs, Jésus dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ne perdez pas de vue que le petit mot heureux veut dire, ils sont sur le chemin du bonheur, les artisans de paix. Pourquoi? Parce que justement, ils seront appelés fils de Dieu. Vous remarquez qu'il y a comme un progrès entre trois béatitudes. La béatitude, heureux les doux. Heureux les doux. Heureux les miséricordieux. Et heureux les artisans de paix. Il y a comme un lien entre ces trois béatitudes. Je vais vous le faire remarquer. André, viens ici. Je sais que tu es un doux, mais ça fait bien. Alors, André, OK? Alors, je suppose qu'on va prendre la béatitude heureux les doux. Qu'est-ce que je vous disais de ce que c'est que le doux? C'est celui qui, devant les contrariétés de la vie personnelle, dans sa vie avec les autres ou avec Dieu, il est contrarié. Comment il va-t-il réagir? S'il veut réagir en disciple de Jésus, il va réagir avec douceur. Mais être un doux, ce n'est pas un mou. OK? Alors, je suppose, je vais y faire jouer le mauvais rôle. André, il est violent. OK? Alors, tu me frappes. OK. Le doux, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va réagir de la même façon? Non. Le doux, il va réagir selon l'Évangile. Donc, devant le violent, il va réagir avec douceur. Deuxième chose, deuxième étape,
le miséricordieux, qu'est-ce qui se passe? André me fait quelque chose. Alors, admettons qu'il dit quelque chose sur moi, il le fait, bon, ou il me blesse de quelque façon que ce soit. Le miséricordieux, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il ne riposte pas avec violence, mais le miséricordieux, il va, lui, pardonner. Alors, il va pardonner. OK? Après ça, on va aller un peu plus loin. L'artisan de paix. Hein? Je suppose qu'André est en chicane avec Aline. OK? Ils sont en chicane. L'artisan de paix, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va essayer de réconcilier les deux ensemble. Ah, voyez? Bon. Merci, André. Ah, voyez, il y a comme un progrès. Le doux, c'est celui qui ne réagit pas avec violence, alors qu'on exerce la violence à son endroit. Le miséricordieux, c'est celui qui pardonne, hein, aux violents. Et l'artisan de paix, c'est celui qui essaie de faire des réconciliations afin qu'il n'y ait plus cette violence entre les personnes ou des groupes. Il y a comme un progrès, voyez, comme une croissance, on peut dire, entre ces trois béatitudes. Est-ce que vous le réalisez bien? Hein? Entre donc le doux, le miséricordieux et l'artisan de paix. Le doux, je ne réagis pas avec violence. Le miséricordieux, je pardonne à mon ennemi, à celui qui exerce violence à mon endroit. Et l'artisan de paix, j'essaie de faire en sorte que là où il y a de la violence, hein, de réconcilier, hein, les personnes. Hein, et de vouloir même faire du bien à ceux qui ont fait du mal. Ah, donc, il y a une progression entre ces trois béatitudes. Et donc, Jésus dit « Heureux les artisans de paix ». Dans l'exégèse, quand on étudie le texte biblique, on dit que c'est à peu près le seul endroit dans la Bible où on retrouve cette expression « être des bâtisseurs ou des artisans de paix ». C'est à peu près le seul endroit. Il y a un autre endroit dans la Bible où on dit « Oh, ça ressemble beaucoup à ça ». Mais c'est à peu près le seul endroit où on trouve vraiment l'expression « artisan, bâtisseur de la paix ». Qu'est-ce que c'est que la paix? Être un artisan de paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, alors on retrouve cela, hein, c'est un petit mot en hébreu, « shalom ». Shalom. Et qu'est-ce que ça veut dire, le shalom? Au fond, c'est la vie. C'est le bonheur. C'est le salut. C'est le salut, hein, principal. Quand les Juifs se rencontrent, shalom. Je me rappelle, un jour, j'étais à l'aéroport, et puis j'attendais quelqu'un, puis en avant de moi, il y avait une famille juive. Je les ai reconnus avec le... Hein? Alors, là, il y avait un petit garçon, lui, il était là, puis il me regardait. Alors, j'ai tout simplement dit « shalom ». Je suis tout étonné, hein, que je lui dise, hein, « shalom ». Mais c'est un souhait principal. Et d'ailleurs, remarquez que la paix, c'est le cadeau par excellence que le Messie apporte. Pensez, dans la nuit de Noël, on lit un vieux texte du prophète Isaïe et on parle du Messie qui va venir. Et on l'appelle comment? Le prince de la paix. Hein, le prince de la paix. Et quand le Messie vient en la personne de Jésus, quel est le cadeau qu'il nous apporte? La paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Et quand Jésus est ressuscité, quel est le souhait qu'il fait? La paix soit avec vous. Donc, le souhait, hein, par excellence, c'est la paix. Hein, c'est la paix. C'est le cadeau, hein, par excellence du Messie. Maintenant, la paix, oh, pour nous autres, la paix, là, des fois, on a une conception un petit peu individualiste de la paix. Je suis assis chez nous, là, hein, je regarde la télévision, puis je mange mes pinottes, puis là, je suis en paix, là. J'ai la paix. Mais non, c'est pas cette paix-là, là, hein. Ça, c'est pas cette paix-là qui parle en Jésus. Hein, la paix dont nous parle Jésus, hein, comme je vous disais, hein, c'est le salut, le bien-être, hein, de la personne humaine. Et comment on peut être artisan de paix? Il y a deux façons, hein, que je voudrais vous présenter qu'on peut être artisan de paix. L'artisan de paix, c'est celui qui va travailler à la réconciliation. Tantôt, on a pris l'exemple, André Pialine. Hein? Alors, voyez, l'artisan de paix, c'est celui qui va travailler à la réconciliation, qui ne va pas en ajouter pour diviser. Et remarquez que des fois, on peut en ajouter, nous autres, pour diviser. On voit ça des fois dans nos conversations, quelqu'un peut nous arriver, puis nous parle d'une autre personne avec qui ça ne marche pas. Puis là, on en ajoute. « T'as bien raison, puis moi aussi, puis t'as vu. » Wow! Quand on en ajoute, pour diviser encore plus, on n'est pas des artisans de paix, là. L'artisan de paix, ça ne veut pas dire que je ferme mes yeux sur ce que l'autre a fait qui n'est pas correct. Mais l'artisan de paix va essayer de trouver, en les paroles, les gestes qui vont permettre la réconciliation. Être des artisans de paix. On voit ça des fois des parents, hein, sont artisans de paix. Deux enfants qui chicanent, là. Puis là, ils sont en chicane, là. Puis là, être un artisan de paix, c'est quoi? C'est d'essayer de remettre les deux frères, ou le frère et la sœur, en communion l'un avec l'autre. Être des artisans de paix. Donc, c'est de travailler à la réconciliation. Travailler à la réconciliation. Et l'artisan de paix aussi. Parce que la paix, comme je vous disais, c'est le bonheur. C'est le bonheur, hein, c'est le développement de toute la personne dans toutes les dimensions. Donc, l'artisan de paix, ça va être qui? Ça va être quelqu'un qui va travailler à l'épanouissement de toute la personne. Hein, le développement de toute la personne. Vous voyez, la paix, c'est pas juste un état d'âme. Si je suis un artisan de paix, je vais avoir à cœur le développement de toute la personne. Tant au plan matériel, au plan affectif, au plan intellectuel, au plan spirituel. Si je veux travailler pour la paix, eh bien, je dois travailler à l'épanouissement de toute la personne. Là, vous avez une parole du pape Paul VI qui est très intéressante en ce sens-là. Le pape Paul VI va dire, le nouveau nom de la paix, c'est le développement. Le nouveau nom de la paix, dit Paul VI, c'est le développement. Et là où il n'y a pas ce développement, cet épanouissement de la personne, on fait obstacle à l'avènement de la paix. Et c'est vrai. Hein? On a juste regardé dans l'histoire. Hein? Lorsqu'on n'a pas travaillé au développement de la société, ça devient la cause des fois de des révolutions et des guerres. Mais si on a à cœur le développement, eh bien, à ce moment-là, et le développement de toute la personne, eh bien, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va promouvoir la paix. D'où vous avez dans la Bible aussi, justice et paix s'embrassent. Hein? Justice et paix s'embrassent. Alors, le nouveau nom de la paix, c'est le développement. Et ça, je trouve ça très beau dans notre foi. Alors, moi, je dis souvent, notre foi, là, la foi, c'est tellement beau, la foi catholique. Regardez, on croit que le Verbe de Dieu, Dieu a pris notre condition humaine. Dieu a embrassé notre condition humaine. Il s'est fait l'un de nous. Si Dieu a pris, si on peut dire, à bras le corps, la condition humaine, ça veut dire que moi, si je crois en un tel Dieu, ça veut dire qu'il faut que je prenne aussi à bras le corps, il faut que je prenne à cœur la condition humaine dans toutes ses dimensions, tant matérielle, affective, intellectuelle, spirituelle. Vous voyez, on doit, si on veut vraiment être des hommes et des femmes qui croient en l'incarnation du Verbe de Dieu, on ne peut pas être des artisans de paix qui ont à cœur le développement de toute la personne, de toutes les dimensions de la personne. Et si vous regardez à travers l'histoire de notre Église, c'est ça qui s'est passé. Des hommes et des femmes qui ont eu à cœur le développement de la personne. Il y a quelque temps, j'avais donné une retraite aux Augustines de la Miséricorde. Ils ne sont pas loin d'ici, hein? Vous avez l'hôpital général, il n'est pas tellement loin d'ici. Puis moi, je me dis, c'est tellement beau de voir, hein? Je donne cet exemple-là, il y en aurait bien d'autres, hein, de d'autres communautés aussi. Mais quand je pense à ces femmes qui sont arrivées ici en 1639, parce qu'on a fêté il n'y a pas longtemps le 375e anniversaire de l'arrivée des Ursulines et des Augustines, quand je pense à ces femmes qui sont arrivées ici en 1639, dans des conditions quand même tellement dures, tellement difficiles, qui ont consacré leur vie à soigner le corps. Voyez? Non, on croit au Verbe de Dieu qui a pris notre condition humaine, et donc être un artisan de paix, c'est travailler au développement de toute la personne humaine, à commencer par le corps. D'autres ont travaillé sur l'intelligence, les études, l'université, les écoles, ainsi de suite. Voyez, il n'y a rien de ce qui est humain ne peut être étranger à notre foi. Et si on veut être vraiment des artisans de paix, on ne peut pas omettre telle ou telle dimension de la personne humaine. Ça doit viser, le développement doit viser tous les hommes et tout l'être humain, tout l'homme, tous et tout. Alors, et là, si on s'adonne vraiment en son, si on s'engage dans un vrai développement, on va promouvoir la paix. On va promouvoir la paix. Alors, donc, on a à la bâtir la paix. Et vous avez une expression qui est très belle que nous avons dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 14. Paul va parler de Jésus qui est notre paix. La paix, c'est en même temps quelqu'un. Jésus est notre paix, dit Saint Paul. Et au bréviaire, on a une prière au bréviaire le mardi soir de la troisième semaine à l'office de Vêpres, où il est dit, en s'adressant au Père du ciel, « Fais descendre sur nous ta paix, Jésus, ton Fils, Dieu à jamais. » Fais descendre sur nous ta paix, Jésus, ton Fils, Dieu à jamais. La paix, profondément pour nous, eh bien c'est en même temps, c'est quelqu'un, c'est la personne même de Jésus. Alors Jésus veut que nous soyons heureux, et Jésus a à cœur le développement de toute notre personne, de toute notre personne. Et c'est beau de voir cet engagement de l'Église pour le développement de toutes les dimensions de l'être humain. Ça fait partie, si on veut des artisans de paix, eh bien, c'est cela qu'il faut viser. Et qu'est-ce qu'il y a pour les artisans de paix? Ils sont appelés fils de Dieu. On est des fils et des filles de Dieu. La béatitude antérieure, heureux, les cœurs purs, ils verront. Mais là, vous voyez, il y a un pas de plus. Là, non seulement on verra Dieu, mais on est appelé fils et filles de Dieu. Il y a quelque chose quand même encore là d'unique dans la foi chrétienne. Il y a quelque chose d'unique. Appeler Dieu Père. Que nous sommes fils et filles de Dieu. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Saint Léon disait, il amenait les chrétiens à considérer combien il est grande ta dignité. Notre dignité, elle est grande. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. On peut dire à Dieu, Abba, Papa. Si bien que les Juifs étaient scandalisés quand ils entendaient Jésus parler de Dieu qui était son propre Père. Si bien que dans l'Évangile, on va dire, il mérite la mort car il ose appeler Dieu son propre Père. Puis Jésus veut que nous aussi, on appelle Dieu Abba, Papa. Intimité. Alors, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Jésus veut qu'on entre dans cette familiarité, dans cette intimité avec Dieu. Comme je vous disais au début de la retraite, Thérèse qui disait, je n'ai pas peur d'un Dieu qui s'est fait petit enfant. Ne pas avoir peur d'un Dieu qui se révèle à nous comme étant notre Abba, notre Papa. Ne pas avoir peur. Alors, tel est le Dieu qui se révèle à nous, un Dieu Abba, un Dieu Papa. Alors, nous allons chanter, voilà un petit peu pour ces deux béatitudes, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On prend un petit moment en silence. On prend un petit moment en silence. Si je regarde ces deux béatitudes dans ma vie présentement, est-ce que je peux vraiment dire que je suis un cœur pur? Est-ce que je prends vraiment conscience des motivations qui m'habitent. Est-ce qu'il y a une recherche de moi-même, recherche d'être remarqué en par les autres, ou tout simplement, je me réjouis de ce que Dieu sache, et point, voilà. Et en tant qu'artisan de paix, est-ce que je travaille à la réconciliation avec des personnes? Est-ce que j'ai à cœur le développement aussi, hein, le développement à tout point de vue, le mien, celui des autres aussi? On prend un petit moment dans le silence, et après cela, bien, j'introduirai la dernière béatitude. Ô Dieu notre Père, fais descendre sur nous ta paix. Jésus, ton Fils, Dieu à jamais. Jésus, Jésus, Jésus. Vous savez, des fois, dans nos milieux, surtout actuellement chez nous, on perd de vue un peu comment... Hein, c'est vrai que l'Église, comment a été artisane de paix, comment elle a bâti. Hein. Et c'est vrai, à travers des engagements de chrétiens, de chrétiennes, de catholiques, comment on a bâti notre société. Hein. Et l'Église a à cœur le développement de toute la personne, hein, de toute la personne. Rien ne peut être étranger à notre foi. D'où au Concile Vatican II, dans le document conciliaire sur l'Église dans le monde de ce temps, il est dit au départ, les joies et les espoirs, les joies et les espoirs, les détresses et les espérances des hommes et des femmes de ce temps sont aussi les joies et les espoirs, les détresses et les espérances des membres de l'Église. On ne peut pas être étranger à ces situations-là. Et en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus, avoir à cœur le développement, être des artisans de paix. La dernière béatitude, heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oh, c'est difficile ça. On n'est pas heureux parce que persécuté, mais parce que le royaume des cieux nous est à eux. Il est déjà présent, et déjà à ce moment-là, il y a une joie au cœur même de la persécution. Je veux dire, des fois ça arrive qu'il y a comme une joie alors même qu'on vit quelque chose de difficile. On a un petit exemple, bien simple. Un jour, un enfant vient de l'école, et puis en arrivant de l'école, alors il rentre à la maison... Son manteau est déchiré, il y a de la boue dessus, et sa mère le regarde, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et le petit gars de dire tout fièrement, j'ai défendu mon ami. Alors, à l'école, en sortant d'école, un de ses amis avait été attaqué par d'autres, puis lui avait défendu son ami. Alors, même son manteau était déchiré, il avait de la boue dessus, fièrement, j'ai défendu mon ami. Cet exemple. Mais les persécutés pour la justice, Ça devrait aller dans le même sens. Mon ami, c'est Jésus. Je suis croyant. Et avoir au cœur, alors même qu'on peut avoir des morceaux qui sont déchirés des fois dans nos vies, eh bien avoir cette joie d'avoir défendu, de s'être prononcé pour la personne de Jésus dans notre vie. Jésus est le persécuté. N'oubliez pas que les béatitudes, c'est l'autoportrait de Jésus. Et Jésus est le persécuté, si on peut dire, par excellence. Pourquoi qu'il est persécuté? Heureux, il est persécuté pour la justice. Parce qu'il est ajusté au Père. Ajusté au Père, eh bien, ajusté à la mission que le Père lui a confiée, eh bien, Jésus connaît persécution et persécution. Et vous avez une parabole dans Saint Matthieu au chapitre 21. Vous savez, la parabole des vignerons homicides. Jésus raconte une histoire. Il dit, un homme avait une vigne, puis il l'avait confiée à des vignerons. Et puis voici qu'à un moment donné, il veut aller chercher le produit de sa vigne. Et puis là, il envoie des serviteurs aller chercher le produit de la vigne. Alors là, les vignerons sont en beau fusil. Alors, ils vont battre les serviteurs, tout cela, et donc, ils retournent vers leur maître. Le maître, quand il voit ça, il dit, je vais envoyer d'autres serviteurs. Il en envoie d'autres. Mais là, cette fois-ci, non seulement on les bat, mais on va en tuer. Alors, le maître, qu'est-ce qu'il dit? Troisième fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer mon propre fils. Ils vont le respecter, c'est mon fils. Et les vignerons, voyant venir le fils, ils disent, ça y est, tuons-le et la vigne sera à nous. Et quand Jésus raconte cette parabole, les pharisiens sont fâchés. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. Et ce qu'ils ont dans le cœur, c'est de mettre Jésus à mort. Et cette parabole dénonce, en fin de compte, l'attitude qu'il y a dans le cœur des pharisiens. Vous voyez, Jésus est le persécuté. Jésus va souffrir, il sera mis à mort. Et Jésus ne nous promet pas, à nous qui sommes ses disciples, à vous comme à moi, il ne nous promet pas la tranquillité. Il ne promet pas la tranquillité. Oh, c'est vrai que dans notre milieu, c'est encore assez confortable. Assez. Ça commence à être un petit peu fatigant d'être chrétien, d'être catholique. C'est un petit peu fatigant, là. On commence à nous piquer un peu. Mais on a connu des années très confortables. Et pourtant, Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Ah bon? Si le monde vous hait, donc le monde pourrait nous haïr. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Encore dans l'évangile de Saint Jean, Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Et Jésus de dire à ses apôtres, dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais confiance, j'ai vaincu le monde. Ou encore dans l'évangile de Saint Luc, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alors, mais Seigneur, tu ne nous promets pas quelque chose de facile. Et on pense que peut-être que croire en Jésus, ça va nous rendre la vie plus facile. Eh bien, illusion. On est un peu comme Pierre. Vous savez, quand Jésus dit à Pierre, puis aux apôtres, « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme va être mis à mort. » Wow! Pierre réagit, « Non, Seigneur, ça, ça ne t'arrivera pas. » Et qu'est-ce que Jésus dit? « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées sont les pensées des hommes et non pas les pensées de Dieu. » Et ce qui est étonnant dans l'Évangile, vous avez ça dans Saint Luc, entre autres, avec les disciples d'Emmaüs, Jésus va leur dire, « Il fallait que le Fils de l'homme souffrit tout cela pour entrer dans sa passion. » Ce n'était pas facultatif, la souffrance. Il fallait. En anglais, on dirait, c'est un « must ». Il fallait qu'il souffre tout cela pour entrer dans sa passion. Alors, si moi, le Maître et le Seigneur, ils me persécutent, ils vous persécuteront aussi. Bon, alors Jésus ne nous promet pas les choses faciles. Et de fait, si on regarde au début de l'Église, tout de suite, il y a des persécutions à cause de la foi. Mais pourtant, il y a de la joie au cœur même des persécutions. Et vous avez, entre autres, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, quand Pierre et Jean sont flagellés, la flagellation, 39 coups de fouet. Hein? Et on nous dit que Pierre et Jean sortent tout joyeux d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Ah bon? Tout joyeux d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Vous voyez, à cause du nom de Jésus, hein, il y a une joie d'avoir communié à la souffrance de Jésus. Pensez au petit gars, hein, son manteau déchiré, hein, et puis il est plein de boue. Mais j'ai défendu mon ami. Pierre et Jean disent, oui, on était flagellés, oui, ça fait mal à notre corps, mais on est heureux d'avoir souffert, d'avoir été en communion avec Jésus, de s'être prononcé pour lui. Et on retrouve cela ailleurs, hein, vous avez dans les Actes des Apôtres, hein, Paul et Silas qui sont en prison, les fers aux pieds, dans le fond du cachot, en plein milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font monter vers Dieu une prière de louange. Hey, quand même! Ben oui, une prière de louange au cœur même hein, de l'épreuve. Hein. Voyez? Donc, dès le début de l'Église, on voit qu'il y a persécution. Et dans l'Apocalypse, dans la finale de l'Apocalypse, à un moment donné, bon, pas dans la finale, mais dans le livre de l'Apocalypse, à un moment donné, on parle de cette foule de gens. D'où viennent-ils? On dit ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est qui ça, ces gens qui viennent de la grande épreuve? Ce sont les chrétiens, les disciples de Jésus qui se prononcent pour lui et qui, à cause de leur foi, hein, souffrent, hein, rencontrent toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Certes, on n'a pas cherché la persécution. Il ne faut pas chercher la persécution. Mais c'est inévitable que si on se prononce pour Jésus, eh bien, à un moment donné, il y aura des gens qui seront contre nous. C'est inévitable. Quand Jésus, dans l'Évangile, il va dire, c'est étonnant, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Ah oui? Jésus est venu apporter la division. Il dit, oui, je suis venu diviser la fille contre la mère, la belle-fille contre la belle-mère, le fils contre le père. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Wow! C'est pas que Jésus veut la division. Non! Elle demeure toujours vraie, cette parole de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais Jésus est bien conscient que si on se prononce pour lui, à un moment donné, eh bien, il y aura des gens pour, puis il y aura des gens contre. Hein? Puis, regardons actuellement dans notre société, hein, c'est ça. Hein? Prononçons-nous pour Jésus, et à un moment donné, il y a des gens qui vont être contre. Je pense à ce type qui travaillait pour l'Hydro, qui travaille d'ailleurs toujours pour l'Hydro-Québec, et puis qui me racontait que un lundi matin, c'était l'heure du café, on se retrouve au café, chacun dit, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Oh, ben moi je suis allé voir un film, moi je suis allé faire du ski, moi je suis allé, à manger à tel resto. Là, ils regardent un de leurs collègues, puis toi, qu'est-ce que tu fais? Un père de famille, hein, il a 5 ans, à l'époque il y avait 5 enfants. Il dit, moi, je suis allé dans une maison de prière en fin de semaine. Hein? Où tu es allé? Une maison de prière? Ça existe encore, ces affaires-là? Oh, les curés nous ont assez bourrés. Moi, c'est fini, l'église, là. Là, il dit, tout le monde se moquait de moi. Tout le monde se moquait de moi. J'avais l'air d'un spécimen, je sais pas trop. Mais c'est un homme qui donne ses couleurs. Moquez-vous si vous voulez. Mais moi, c'est ça. Alors, vous voyez, persécution. C'est pas persécuter, on nous coupe la tête, mais on se moque, on ironise, on est indifférent. Vous voyez? Ça fait mal, ça aussi. Ça fait mal. Mais avoir la joie, lui, t'es content. Puis sa joie, à un moment donné aussi, elle a fleuri parce qu'il dit dans la semaine, et c'est drôle, hein, il dit, Germain, il dit, tout le monde se moquait de moi. Puis il dit dans la semaine, il dit, ma patronne, elle vient me voir, puis elle me dit, c'est quoi les coordonnées de l'endroit où tu es allé? Hein? Vous voyez, ça fait boule de neige. Mais se prononcer pour Jésus, ça ne veut pas dire demander que tout le monde va applaudir. Puis c'est de plus en plus présent dans notre société actuellement, même dans nos familles. Même dans nos familles, vous savez. Il y a des familles qui souffrent, je connais des parents qui souffrent tellement, hein, parce que les enfants ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas que la grand-mère ou le grand-père parle de Jésus à leur enfant. Ça fait dur. Les parents, les grands-parents ont une blessure. Ils disent, je Tu peux pas parler de Jésus, hein? J'en connais plus d'un, là, qui sont dans des situations comme cela. Voyez? Alors, la persécution, faut s'y attendre. Faut pas penser qu'on va toujours être dans du gâteau, hein? À un moment donné, c'est difficile. Mais, gardez la joie, hein? Être heureux, les personnes. On est sur le chemin du bonheur, hein? Alors même qu'on connaît la persécution. Bon, j'aurai pas le temps de développer pour tout cela, mais je développerai peut-être ce soir à la messe, hein, le lien avec ça. Mais je termine avec des exemples. Pensez à nos chrétiens, nos frères et sœurs chrétiens d'Irak actuellement. C'est vraiment de la persécution à cause de leur foi. Si vous restez à Mossoul, là, on vous coupe la tête. On s'en va. T'sais? Il y a des persécutions. J'ai lu dernièrement un témoignage qui m'a beaucoup touché. Ça se passe en Chine. Alors, à la fin des années 40, c'est le communisme qui est rentré en Chine. Et là, à ce moment-là, les communistes avaient rassemblé les catholiques dans l'église du village et ils disaient, si vous revenez ici, là, on vous tue. Et puis là, ils ont tout saccagé, ils ont pris les hosties au tabernacle, ils ont jeté ça par terre, puis ils ont dit, on ne veut plus vous voir. Et puis, ils tiraient partout. Et puis, ils ont dit, si vous rentrez ici, on va vous tuer. Alors, une petite fille, 11 ans, c'est une chinoise, le soir, quand c'était la nuit, elle s'en allait à l'église. On était en 1949 à peu près. À cette époque-là, on communie sur la langue. On ne touche pas l'hostie, hein? C'est pas comme aujourd'hui. On communie une fois, on ne communie pas deux fois, hein? La petite fille, hein, qui est élevée dans cette foi-là, la nuit, elle se levait, puis elle s'en venait dans l'église paroissiale, puis là, comme elle n'avait pas le droit de toucher aux hosties, bien, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se mettait les mains dans le dos, puis avec sa langue, elle allait chercher une hostie, puis elle se retirait. Et le soir, la nuit, elle faisait ça. Elle venait communier, et puis un soir, à un moment donné, les communistes se sont rendus compte que la petite fille allait dans l'église alors que c'était interdit. Et puis un soir, qu'elle était penchée pour prendre une hostie, on l'a tuée. Vous voyez, la foi, hein, je trouve ça beau, une petite fille, 11 ans, qui a donné ce témoignage-là à toute la communauté, un catholique qui n'osait plus à cause de ce que les communistes avaient dit. Vous voyez, c'est des situations difficiles, hein, qu'on peut retracer à travers toute l'histoire de l'Église et encore aujourd'hui. Mais hein, notre foi en Jésus ne nous préserve pas de cela. Mais avoir cette joie au cœur même de la persécution, la joie de rendre témoignage de Jésus. Alors, je vais m'arrêter là-dessus et puis ce soir, je pourrais reprendre peut-être un peu des liens pour notre vie personnelle, comment on peut vivre ces persécutions ou ces difficultés dans la foi, comment on peut les vivre et que ça soit positif, ça l'aide à notre croissance. Je termine en demandant à Claire, on va juste vous rappeler toutes les béatitudes, je vous les ai données, on les reprendra ce soir. Je vais demander à Claire qu'elle nous donne en récitatif ce qu'elle nous a donné hier, les béatitudes en récitatif, puis après ça on fait la pause.